espera que llegue el primer tren, meneando el abanico. Cuenta en el pueblo que un caminante paró su reloj una tarde de primavera. Adiós, amor mío.
Patriarca, patriarca, patriarca. Patriarca, patrie, patriarca, patrie.
La parole est pleine pour les miens, pour que le beat tienne, le micro en main, que mon message parvienne.
Violence.
C'est la révolte des femmes de ménage, des camionneuses et des petites filles bien sages.
Whatever Lola wants, Lola gets.
Résiste, prouve que tu existes, cherche.
A butch, I wanna be a butch, 'cause butch are strong and sensitive. Butch are sexy and wonderful, powerful and brave and queer and straight lies and whores.
Et on se prend la main, et on se prend la main. Une fille en masculin, un garçon.
Dégenré, l'émission pour
déranger.
Une émission féministe.
Les deuxièmes et quatrièmes mercredis de chaque mois.
De 18h30
à 20h.
Sur Radio Kaleidoscope
97 FM.
1h30 de féminisme pur.
Bonsoir, ce soir sur Dégenré, on va vous parler du travail d'escorte, d'hôtesse et de domina, qui sont trois travails du sexe. Et on avait envie en fait de parler de ça parce qu'on a des copines féministes qui font du travail du sexe et on trouve ça très intéressant de parler à la fois de cette activité et puis à la fois de ce que ça dit sur où on en est dans notre société par rapport à la sexualité, des choses comme ça.
Oui, une des idées de cette émission aussi, c'était qu'on a déjà fait plusieurs émissions sur le travail du sexe, mais finalement, on parlait peu de en quoi ça consiste concrètement. Et donc, on avait aussi envie de lever un peu ce tabou-là. Et donc, pour ça, on est là ce soir avec trois invités. Il y a Elsa, Leïla et Lola, et sinon à l'émission il y a Nicolène, Amélia, Sarah et moi.
Zacha.
Alors bonsoir.
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 Et je sais pas qui de vous a envie de commencer en fait, je sais pas, peut-être Leïla.
Tu oui,
veux un peu parler de ce que tu fais
Oui, moi je fais de la domination
Et avant, je faisais l'escorte.
Et donc, toi, Lola, tu fais...
Donc, moi, je suis escort girl. Je fais, c'est mon activité principale. Je fais aussi de la domination, mais je suis plutôt escort girl sur Internet.
Et peut-être vous pouvez un peu expliquer escort girl. C'est pas trop un terme beaucoup utilisé en français courant comme ça. Alors, en quoi ça consiste
Moi, je pense qu'à la base, le terme d'escorte, c'est de l'accompagnement. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on sous-entend, parce que ça peut être aussi bien de l'accompagnement en club, dans les restaurants, tout ça. Mais ça pousse aussi jusqu'à des relations sexuelles. Enfin, chaque personne fixe ses limites. Mais donc, moi, j'ai des relations sexuelles avec les clients. Je fais de l'accompagnement et de la domination. Et tout ça, c'est sur Internet. Voilà. Donc, on me contacte... Internet.
Et toi, Leïla, tu disais tu fais plus dans la domination maintenant. Je sais pas, tu veux rapidement présenter un peu dans quelle forme ça peut prendre.
Oui, la domination consiste de dominer les mecs sexuellement ou pas forcément avec le contact direct sexuel, mais c'est sous-entendu aussi. Et du coup, ça veut dire attacher les gens, les jeux de rôle. Oui, il y a plein de trucs. Je ne sais pas. Des fessées, des fouettées. L'humiliation aussi. Il y a des mecs qui
veulent... Verbal, par exemple, aussi.
Verbal, oui. Il y a des mecs qui aiment bien être habillés en femme et... de leur apprendre comment être femme et des trucs comme ça.
Okay. Et toi, Elsa, c'est quoi ton boulot?
Alors, je travaille comme hôtesse en bar américain. Donc, en fait, on dit, je crois que ça se dit entraîneuse pour beaucoup de gens, ils comprennent bien comme ça.
Ou donc, bar gros, à champagne aussi.
Oui, ou bar à champagne. Et donc, en fait, moi, je suis censée tenir compagnie à ces braves messieurs. Et ils payent pour ça. Et donc, après, ça dépend plus des filles que vraiment des établissements. Après, il y a des établissements qui refusent catégoriquement la prostitution au sens vraiment hétéronormé du terme, on va dire, donc la pénétration. Mais il y a beaucoup de bars américains où c'est autorisé. On va dire que ça dépend plus des hôtesses. Puisqu'une fois qu'on est avec les clients, qu'ils ont payé une bouteille, on est seul avec eux. Et donc là, c'est moi qui fixe les limites, quoi. Sachant que le but, c'est qu'ils reprennent une bouteille vu que moi, je suis payée avec une commission sur chaque bouteille. Donc bon, je parle pour qu'ils s'intéressent un peu ou qu'ils attendent plus. Je leur fais miroiter mon émerveille et puis voilà.
Ou tu écoutes.
Oui, ou voilà, ou j'écoute. C'est vrai qu'il y en a qui parlent beaucoup. Donc ouais, il y a vraiment toutes sortes de mecs, quoi. C'est des mecs tout à fait normaux, hein. Donc il y a des riches, des pauvres, des mecs mariés, des mecs célibataires, des gros beaufs, des supra-cerveaux, voilà, l'intelligentsia de notre société. Enfin, il y a vraiment tout.
Alors voilà, ces trois travaux dont on va vous parler ce soir, de ce que ça nous apprend, ou ce que ça vous a appris sur ce qui se passe aujourd'hui.
Connaissez-vous la chante sorcière, celle qui fit fort qui transforma son tortionnaire, le grand inquisiteur qui lui ouvrit son cœur. On pouvait la trouver
incroyable fête. Et toute nue, elle chante comme ça. Commence, ça commence. Toute la forêt se met à parler. Mais en transe, de par sa mère, la sorcière savait comment s'élever, comment prier, comment soigner, comment chanter et comment danser. Il arrivait dans la région, l'inquisiteur, c'était un homme passionné, l'inquisiteur, qui voulait sauver l'humanité, pauvre pécheur de l'éternelle damnation. Alors attention, ils sont venus la prendre. Chambre de torture. Un son premier cri éveilla son oreille et la sorcière se mit à agir et elle fit, elle s'en sorcelle et se mit à chanter la suppliciée. On voyait qu'elle aimait être amoureuse et sa longue chevelure faisait comme une couverture à peine à voir. Maintenant sale, ah, tu m'assassines, sauve ton âme. C'est le diable qui accouche. Tu voudrais bien que je te touche. D'ailleurs, tu fais tout pour me plaire. On peut dire que tu sais y faire. Non, c'est l'air qui vibre et tu fais sonne. Oh, comme t'es libre et comme t'es bonne. Le grand inquisiteur sent battre son cœur. Le grand inquisiteur sent y fondre.
Du coup, on vient d'écouter un morceau de Rita Mitsuko qui s'appelle La sorcière et l'inquisiteur, et ben qu'on voulait passer aussi parce que voilà, les prostituées, comme toutes les femmes qui sortaient de la norme, et encore plus si leur sexualité rentrait pas dans le rang, se faisaient brûler comme sorcières.
Et alors, ce soir, dégenré sur le travail du sexe avec trois invités, Elsa, Leila et Lola, et peut-être on peut continuer avec comment en fait vous êtes arrivé à faire ce travail-là, comment vous avez pris le choix, la décision plutôt, de faire ce travail-là. Je sais pas, Lola, tu veux parler de ça?
Et ben, en fait, il s'est trouvé à un moment donné de ma vie où j'avais pas de revenus, où j'étais trop jeune pour bénéficier des minima sociaux, où voilà, je trouvais pas d'emploi parce que voilà, j'avais pas la bonne tête, la branche dans laquelle j'aimerais travailler, étant donné mon âge, je suis pas encore assez crédible, donc je remets ça pour plus tard. Et voilà, donc ça m'attirait déjà, mais j'avais plein d'a priori de ce qu'on m'avait raconté, de l'image qu'on véhicule, de la dangerosité de la chose, tout ça. Et puis de plus en plus, en fait, j'ai eu des amis qui faisaient ce boulot, j'ai connu plus de gens et j'ai connu plus la réalité, donc ça m'a donné envie d'essayer. Et une fois que j'ai essayé, l'essayer, c'est l'adopter, et j'ai trouvé ça cool.
Ouais, d'ailleurs, tu disais que tu préférais bosser 4 heures comme ça que 35 heures à l'usine par semaine.
Ouais, personnellement... Moi, ça me convient. Enfin, ça me convient d'avoir plein de temps pour moi et en même temps d'avoir assez d'argent pour pouvoir travailler que 4 heures par semaine. Je trouve que c'est quand même un luxe et que je suis vraiment pas à plaindre, contrairement à ce qu'on pourrait dire des pauvres prostituées victimes de tout.
Ouais. Et toi, Leïla, t'as choisi comment ce travail ?
Mais moi. Il y a quelques années, j'ai rencontré une dominatrice. J'étais dans une squat à Amsterdam en vacances. Et elle venait d'Australie. Et je trouvais ça chouette comme choix de travail. Mais j'avais pas envie à le moment. Et puis, je voulais habiter à San Francisco. Je suis allée à San Francisco. Et j'ai décidé de faire pareil parce que... Oui, je me suis rappelé d'elle et du coup j'ai cherché dans le journal et j'ai trouvé des donjons et j'ai appelé les donjons jusqu'à j'ai trouvé un travail comme dominatrice.
C'est quoi un donjon?
Un donjon, ça c'est le lieu où en fait la domination, c'est un lieu avec des cordes, avec des croix où on peut attacher des gens, il y a des godes ceintures, il y a des fouets, il y a des cravaches. Et du coup, ouais, une donjon, c'est plutôt une idée d'un lieu où il y a tout ce qu'il faut.
Et toi, Elsa ?
Eh ben, moi, j'avais besoin d'argent. Et je voulais donc trouver un boulot, mais où je ne travaille pas le matin, déjà. C'était assez important. Et où je suis pas entièrement déclarée, parce qu'il fallait pas que je sois entièrement déclarée. Et voilà, et où j'ai pas besoin d'un CV. Bizarrement, pour l'instant, c'est le seul travail où j'ai pas. Enfin, non, pas le seul, mais c'est vraiment un travail où on n'a pas besoin de se vendre en y allant, quoi. Je suis juste allée habillée correctement. J'avais des copines qui m'avaient parlé d'un bar où c'était cool. Et donc j'y suis allée. Et puis voilà, quoi. J'ai fait un petit entretien rapide où en gros, on m'a demandé si je savais où j'étais. J'ai répondu que oui. Et on m'a dit, reviens pour un essai. Et vu que j'ai gagné de l'argent, je suis restée. Et du coup, ouais, c'était un peu hasardeux, quoi. Mais finalement, j'étais bien contente de trouver ça. Parce qu'on gagne quand même pas mal d'argent et on travaille pas le matin. Et puis on peut. Après, quand les patrons, on va dire, sont plus ou moins contents de l'argent qu'on leur fait gagner, a priori on peut partir, revenir quand on veut. Donc c'est assez souple aussi au niveau des horaires, on peut beaucoup s'arranger avec les autres filles. Donc voilà.
Et par rapport à l'image que tu avais du boulot à la base, est-ce que c'était décalé de la réalité de comment ça se passait ?
Ouais, complètement. Ouais. Ouais, moi j'imaginais un truc où vraiment j'aurais besoin de me mettre complètement dans des rôles, de surtout pas faire ressortir ce que j'étais moi, parce que moi je me voyais quand même pas comme la fille qui... dans son comportement qui va plaire d'emblée à tous les types normaux. Et en fait, en y allant, je me suis rendu compte que j'avais fait ça toute ma vie. Et ça m'a beaucoup étonnée. Je me suis dit, tiens, mais c'est fou. En fait, il faut juste être une femme, éduquée comme une femme. Et tous les mecs, ils sont là, ils en peuvent plus, ils payent. Et du coup, je me suis demandé pourquoi avant, je discutais avec des mecs gratuitement comme ça, quoi. Ça a été la grande révélation. Donc voilà, ouais, c'était... finalement, il n'y a pas... Après, je me suis mis à jouer pas mal des rôles, quoi. Suivant le gars qui c'était, qu'est-ce qu'il attendait, est-ce qu'il aime plutôt les petites filles qui va rire bêtement à ses conneries, ou est-ce qu'il va aimer la femme indépendante, qui assez intelligente, qui va pouvoir parler de tous les sujets. Et donc, ouais, je me suis adaptée. Je me suis pas mal adaptée au truc pour... Parce que plus on... Comment dire ? Plus on fait ce que le gars attend, tout en restant dans ce que nous, on veut être, et plus on gagne de l'argent. Donc après, voilà. Mais je sais pas comment dire. Au début, c'était bizarre. Parce qu'au début, j'étais toute recroquevillée d'être dans ce bar. Je me disais, oh là là, comment je vais faire. Et en fait, le premier client que j'ai eu, j'ai discuté, mais normalement, comme on discute quand on rencontre quelqu'un dans un bar, tout à fait normalement. Et en plus, je suis repartie de la soirée avec 200 euros. Là, je me suis dit, mais c'est génial.
Voilà. Et toi, Léla, avant de commencer vraiment ce travail-là, les idées que tu t'en faisais, je sais pas, c'était décalé parce que t'as finalement découvert ou...
En fait, avant de commencer la domination, j'avais pas vraiment grandes idées qu'est-ce que c'était la domination, mais peut-être je peux un peu dire comment je me sentais quand j'ai commencé le travail comme escorte. Parce qu'en fait, pour moi, quand j'ai travaillé en tant que dominatrice, j'ai eu plein d'histoires par rapport aux escortes et comment c'était, et comment les clients sont fous et tout ça. Et du coup, moi, j'avais trop peur de faire l'escorte et j'avais pas envie de faire ça. Et puis, mais j'avais, à un bout de moment, j'avais envie de sortir de la domination. Et j'ai gardé une maison d'une amie qui travaille comme prostituée. Et du coup, j'étais obligée de répondre à ses mails et tout ça. Et de... Ouais, pas vraiment de parler avec ses clients sur le téléphone, mais plutôt ça. Et je me suis rendu compte que ses clients étaient vraiment, vraiment chouettes et vraiment respectueux. Et tout ça. Et du coup, après... Après que je suis restée dans cette maison pendant 2 semaines, j'ai décidé de tenter ça parce que... Ouais, je vais... Mais avant que j'ai commencé la domination, je crois pas que j'avais grandes idées dans ma tête parce que j'étais vraiment plutôt Gwyn avant et du coup, je suis pas vraiment sortie avec des mecs et du coup, je connaissais pas vraiment trop des mecs et du coup, j'avais pas vraiment une idée que... Ils étaient des tarés, s'ils aimaient bien la domination, c'était... Ouais.
Et toi, Lula ?
Avant de commencer, évidemment, je me posais la question si j'allais commencer seule ou si j'allais pas trouver quelqu'un pour m'accompagner parce que je m'imaginais que je pouvais tomber sur des tarés, sur des gens complètement fous, que ça allait m'arriver un jour ou l'autre, tout ça. Et puis, j'ai fait mon premier client et au fur et à mesure, je me suis aperçue que, effectivement, comme Leïla, c'était bien plus respectueux comme rapport. Que beaucoup d'autres que j'avais eu avec des hommes qui me payaient pas, quoi. Parce que déjà, mes limites, moi, je les dis au téléphone quand la personne m'appelle. Et donc, si ça lui correspond pas, la personne ne vient pas. Et donc elle paye pour un service et ça ira pas plus loin. Donc, on se met d'accord sur ce qu'on va faire déjà à l'avance. Et je me suis trouvée face à des gens super respectueux qui étaient souvent un peu honteux de leur fantasme ou de leur sexualité, qui avaient peur des femmes, qui n'avaient pas beaucoup d'expérience parce qu'ils travaillaient trop, qu'ils avaient trop peu de temps, ou alors qu'ils n'avaient plus de sexualité dans leur couple. Voilà, donc plutôt, j'étais plutôt rassurée et je pense que je peux plus tomber sur quelqu'un qui me fasse du mal dans la rue que dans le boulot.
Ça, pardon, je vais juste dire un truc. Ça peut être chouette si on peut faire ça dans nos vraies vies avant qu'on ait un rapport sexuel avec quelqu'un. On pourrait dire oui, en fait, j'aime pas ça et ça et ça, et comme ça, on évite d'avoir des mauvaises expériences au lit.
C'est vrai.
Et alors, on va écouter un petit morceau de musique qui s'appelle Con la Virgin, et qui est en fait de la Terremoto de Alcorcón, qui est une trance de Barcelone qui fait des reprises de chansons bien connues, qui changent un peu les paroles. Alors, bon, on s'était trompé dans le numéro de la plage, et donc c'était pas du tout ce que j'avais annoncé. On vient d'écouter God is my co-pilot avec Secrets.
Voilà, et God is my co-pilot, c'est un groupe queer américain, on peut dire.
Ok, alors là, on va parler un peu plus de comment ça se passe, le travail, tout ça. Et peut-être Lola, est-ce que tu peux nous parler de qui c'est les clients, de quels sont les tarifs, comment tu fixes tes limites ou des choses comme ça?
Donc plutôt la chose pratique, enfin l'aspect pratique de la chose. Donc moi je suis sur plusieurs sites où je mets une annonce. Moi j'ai choisi d'axer plutôt mon annonce en disant que j'étais une jeune fille cultivée, prête à partager des conversations sur tous les sujets, que j'étais habile de mes doigts et les hommes harassés par leur boulot pouvaient venir se délasser sous mes doigts de fée. Voilà, donc j'ai choisi plus un aspect. Et en même temps, je mets que je peux être baby doll ou tigresse selon leurs envies. Donc après, c'est à eux aussi de me dire plutôt dans quel rôle ils veulent que je me mette un peu, quoi. Et voilà, donc j'ai laissé mon numéro de téléphone sur l'annonce. Et ensuite, les mecs m'appellent, quoi. Et je leur dis mes prestations et mes tarifs et quand est-ce que je suis disponible. Donc moi, mes tarifs, c'est ça va de 100 € jusqu'à 250 € en début du mois. Et après, en milieu et fin de mois, c'est 200 € vu que les gens ont un peu moins d'argent en général.
C'est 100 et 250 pour quoi ?
Alors 100, c'est pour... moi au début, je dis toujours que je fais massage. Donc c'est massage plus finition manuelle. Donc sous-entendu, je les branle pour 100 € et ça dure une demi-heure. Et donc pour 250 au début du mois, c'est massage sur tout le corps, plus rapport, fellation, et voilà. Puis ensuite, moi, je dis mes limites au niveau... je veux pas, par exemple, qu'il y ait de contact entre leur sperme et... je veux pas avaler leur sperme, je veux pas en avoir sur le visage, voilà, tout ça, ces sortes de choses. Et ensuite, moi je me déplace soit à leur domicile, soit à l'hôtel, parce que c'est souvent aussi des gens en déplacement qui habitent pas sur Lyon, quoi, des commerciaux, tout ça.
Et j'ai plutôt affaire à une clientèle, donc je dirais qu'il y a 2/3 de personnes mariées et 1/3 de célibataires. Et donc c'est plus souvent des gens aisés qui ont beaucoup de moyens. Et d'autres fois, moins souvent, je suis tombée sur des étudiants ou des gens pas spécialement riches, mais qui avaient l'habitude, une fois tous les 2 mois, de se payer une escorte, quoi.
Voilà.
Ok. Et toi, Leïla, c'est quoi le travail? Comment tu te débrouilles pour avoir des clients?
Oui, moi aussi, je mets mes annonces sur Internet, mais... oui, et du coup, les clients, normalement, ils me contactent par mail et... Puis je leur donne, si ça me convient, je leur donne mon numéro de téléphone. Et de temps en temps, je mets une annonce avec mon numéro. Mais pas trop parce que je ne veux pas trop d'appels non plus. Oui, parce que moi, je ne veux pas vraiment travailler tout le temps. J'aime bien travailler un petit peu. Mais et je trouve que la domination, ça dépend. Mais il y a beaucoup de personnes qui pensent que ça coûte plus cher que l'escorte. Mais je trouve que... ça coûte moins cher normalement, mais souvent il y a un minimum d'heures ou quelque chose comme ça pour que tu te fais payer plus cher, mais par l'heure tu te fais payer moins cher ou quelque chose comme ça parce qu'il y a moins de rapports sexuels normalement. Mais normalement, si on fait les deux, comme on fait l'escorte et domination aussi, on peut être payé plus aussi.
Ouais, en fait, il y a genre il peut y avoir des négociations à vraiment, enfin, j'en sais rien comment dire, à la carte. Enfin, en gros là, vous donnez des tarifs mais je sais pas en fait où il peut vraiment y avoir des détails comme ça qui sont négociés et vous dites OK ça, mais ça coûte tant de plus ou
Oui, aussi oui, comme ils veulent que en fait, l'euro ou quelque chose comme ça, ou le scato, ça coûte plus cher, ou il y a plein de choses autour de la domination. Aussi, les douches, mais en fait, non, c'est pas comme ça en français. Le Roman shower aussi, et ça, c'est quand tu vomis sur quelqu'un, et du coup, il y a plein de trucs différents. Il y a la domination vraiment hard, il y a le piercing, et donc du coup ça coûte plus cher normalement aussi. Et ouais,
et donc toi tu poses aussi tous ces trucs de qu'est-ce qui va se passer, des trucs de limite au téléphone à l'avance?
Oui.
Ouais, je voulais rajouter sur ce qu'elle disait, Leïla, en fait, oui, pour tout ce qui est... Moi aussi, je fais tout ce qui est uro, scato, donc, c'est-à-dire le pipi, le caca, tout ça. Donc moi, la domination, c'est plus cher, parce que ce que j'entends par domination aussi, c'est tout ce qui est uro et scato. Donc là, c'est à partir de 300 euros, sans rapport. Et ensuite, c'est plus cher s'il y a un rapport pénétration, quoi, s'il y a pénétration. Voilà. Enfin, je voulais juste rajouter aussi que je fais aussi de la photo. Voilà, pour des amateurs, je fais des photos porno. Voilà.
Ah, ok. Et alors, Elsa, toi, ton travail, c'est un peu différent. Comment concrètement ça se passe? Comment, par exemple, aussi cette question de comment tu poses des limites et tout? Enfin.
Ben, ouais, donc moi, je choisis pas mes clients, puisque c'est un bar. Et en fait, donc ouais, ça se passe pas pareil parce que du coup, je leur sers un coup à boire.
Mais c'est les clients qui... Comment ça se passe en fait? Un client arrive dans le bar et il y a plusieurs filles en fait, il en choisit une. Comment? Non, je sais pas.
Ben, dans le bar où je suis, c'est en fait, on y va à tour de rôle avec les différentes filles. Après, ça peut être différent, ça dépend des bars, peut-être qu'en effet... Et oui, si en effet, un client, il boit toujours avec moi, il va venir, il va boire avec moi. Mais pour des clients qui ne sont pas des habitués, on y va à tour de rôle. Et s'il y en a une pour qui ça marche, tant mieux. Donc, on le sert. Après, on va s'asseoir à côté de lui. On essaye de discuter 2 secondes en étant sympathique. Et là... ouais, au bout de 2-3 minutes, il faut qu'il nous paye un verre qui coûte 18 euros. et sur lequel je touche 5 euros. Et une fois qu'il nous a payé un verre, je me donne à peu près 10 minutes, un quart d'heure pour qu'il me paye une bouteille, sinon au revoir, quoi. Sinon il va rester tout seul au comptoir. Et donc la bouteille, elle est entre 170 euros et 480 euros, avec d'autres prix et d'autres bouteilles entre. Mais le champagne, c'est vraiment... c'est pour l'accessoire, quoi. La plupart des clients, ils viennent pas pour boire du champagne. Donc, des fois, je me suis surprise à boire plus qu'eux. Alors... Ça la fout un peu mal.
Et toi, tu touches combien sur ces bouteilles-là ?
Et donc, moi, je touche sur celle à 170, je touche 40 euros. Et sur les différentes bouteilles, je touche 40, 50, 60, 70 ou 80 euros. Donc ça, c'est pour le côté officiel. Après, donc, une fois qu'on prend une bouteille, on va dans un salon qui est fermé par des rideaux, donc où on n'est que tous les deux. Et là, après, il peut y avoir aussi des prestations, des sous-tables, quoi. Donc du coup, ça m'est arrivé de faire des striptease. C'est un truc qui marche très bien et ils payent très cher. Et le mieux, c'est d'arriver à leur faire... à leur donner envie que tu fasses un striptease pendant 5-6 bouteilles, et tu le fais à la fin, et là ils sont tout contents, et ils ont lâché je sais pas combien en tout, enfin ouais, parce que vu que je touche pas tout ce qu'ils lâchent, mais ils lâchent beaucoup.
et là, par exemple, pour une prestation en plus comme ça, et ben comment ça se passe, il paye en plus ça à toi directement, ou...
Ah oui, ça c'est à moi directement.
Et,
ça, personne n'est au courant.
Et vous,
quoi,
négociez le tarif de ça, enfin tu poses un tarif ou...
Ouais, bah ça dépend. Ça dépend si c'est à la première bouteille et que j'ai pas envie de m'emmerder avec le type parce qu'il est chiant. Je lui dis tout de suite, bon voilà, c'est 150 euros ou 100 euros pour voir mes nichons, quoi. Et soit il les donne, soit il les donne pas. Et si c'est au bout de 8, 9 bouteilles, que j'ai déjà fait un bon petit magot. Et qu'il est sympa, bon, des fois, je lui dis, oh, allez, vas-y, pour 100 euros, je te fais l'intégrale. Et le truc, c'est qu'après, moi, j'ai pas envie qu'il me touche, quoi. Donc, je leur dis, voilà, je fais ça, mais tu me touches pas, tu regardes. Alors, ils sont là, ils bavent. Puis après, moi, je me rhabille. Dommage. Et ouais, du coup, donc moi, quand on est au comptoir, il faut que je lui donne envie de venir en salon avec moi. Et alors là... je leur promets jamais vraiment un truc. Je lui dis pas clairement je te ferai ça ou je te ferai ça. Mais je laisse sous-entendre que oui, bah bien sûr, si ça se passe bien entre nous, vu qu'en plus il a l'air absolument charmant et qu'il est très beau garçon, il y aura certainement moyen de faire plus ample connaissance et de se dire plein de choses au creux de l'oreille. Et bien plus, évidemment, si affinité. Enfin, et du coup, tout le jeu, c'est de lui faire croire que... Et même si la plupart, ils y croient pas, parce que la plupart, c'est des habitués. Donc, ça fait des années qu'ils vont en bar américain, qu'ils savent très bien qu'en général, ils auront rien. Ou alors, la fille, elle leur dit d'entrer, bon, ben, c'est tant pour ça ou c'est tant pour ça. Mais je sais pas, ils ont envie d'y croire. Enfin, c'est un peu comme des joueurs de casino, quoi. Ils jouent en espérant gagner, et en fait, ils perdent toujours, mais ça, c'est bon. Bref.
Et du coup, justement, t'as l'impression que c'est assez facile de faire respecter tes limites, parce que... parce qu'ils sont habitués à comment ça marche. Enfin, t'as l'impression que ça se passe bien à ce niveau-là, quoi.
Avec la plupart des clients, ouais, il n'y a rien besoin de leur dire, quasiment. Ils essayent rien. Et la plupart, ils essayent, si, allez, ils vont mettre la main sur l'épaule, ou ils vont me dire... Oh, tu veux pas manger avec moi ce soir, je t'invite au restaurant, voilà. Donc ça, c'est le client type, il est très cool, très cool. D'ailleurs, c'est plus facile de le rencontrer dans un bar américain que dans un bar normal, parce que bon, la plupart des mecs qui draguent, ils sont quand même bien lourds, quoi. Et après, il y a les clients chiants, il y en a aussi. Et là, souvent, c'est plus... ouais, donc là, il y a certains habitués de bar américain de très longue date qui sont en plus bien, je me la pète, j'ai un ego comme ça, une bite encore plus grosse. Et ceux-là, ouais, il y en a qui sont chiants, quoi. Et où là, c'est de la guerre psychologique, en fait. Tout ce que je dis va être calculé, tous les mouvements que je fais, à quel moment, il va falloir que je me rapproche un peu plus pour lui laisser croire que, et à quel moment je vais prendre de la distance. Et ouais, après, ce qui. Enfin, je m'étais dit, c'est toujours important de garder les limites qu'on se fixe au départ, et finalement, je les ai pas forcément toujours gardées, quoi. Parce qu'au départ, je pensais pas qu'un jour je ferais un striptease à un client. Mais après, ouais, il faut. Enfin, j'ai quand même plus ou moins réussi à pas me laisser trop attirer par cette histoire d'argent, parce que quand même, c'est super. C'est ce qui est le plus important au milieu de la relation entre le client et moi, quoi, on va dire. Et du coup, c'est vrai que je pense que ça peut être vite arrivé quand on a vraiment besoin d'argent de se dire ouais, non, j'ai pas envie de faire ça. Et puis finalement, bon, bah allez, pourtant, si je lui fais ça, peut-être il me donnera un peu plus. Mais bon, non, finalement, c'est pas si dur. Mais de toute façon, vu qu'on est dans un bar, on est à l'intérieur, il y a les patrons qui sont là. En général, les clients, ils tentent pas, quoi. Ce qu'ils tentent, c'est de nous déstabiliser psychologiquement, ou même de. Pour les plus durs, ils essayent vraiment de te bouffer, quoi, de te rabaisser, de te faire croire que t'es une pauvre merde, là, et que tu leur appartiens. Mais après, d'où l'intérêt d'être féministe ? C'est qu'on n'y croit pas. Donc voilà, donc ouais, non, j'ai pas eu particulièrement de problème.
Et justement, pour toi, Leïla, et puis pour toi, c'est qui les clients, en fait, qui viennent soit pour la domination, soit pour le bar à hôtesse ?
Oui, moi, je dirais pour moi que les clients sont pas pareils que les clients de bar à hôtesse, parce que tout à l'heure, tu m'as dit, Elsa, que tes clients, tu les écoutes beaucoup, ou quelque chose comme ça. Et moi, avec mes clients, ils sont plus intéressés pour ce que je dis. Je sais pas, c'est un truc différent, quand mes clients sont plutôt soumis et ils veulent que je leur parle, et ils disent pas grand-chose. Des fois, ils disent des trucs si je leur demande, mais sinon, c'est à moi de contrôler tout, ou de... Et de... Ouais.
Moi, j'ai un peu de tout. Hein.
Ah oui.
Comme client. Ouais, des riches, des pauvres, des pères de famille, des vieux losers retraités, célibataires. Enfin, y a tout, quoi. Il y a autant le type qui a plein d'argent, qui a un ego surdimensionné, et donc qui paye des filles pour le flatter, pour qu'on s'occupe de lui, pour qu'il n'y ait que lui au centre du monde, quoi. Et autant d'autres qui sont des déprimés de première, qui sont là, oh, j'ai tout raté, je suis tout seul, je vais rester seul jusqu'à la fin de mes jours. Enfin, donc il y a vraiment, ouais, il y a celui qui va payer je pense qu'il y a il y a aussi un rapport un peu il y a des rapports de domination avec certains clients, quoi. Il y en a qui, tu sens, qui payent pour que toi tu fasses ce qu'ils ont envie. Et il y en a d'autres, ils payent juste pour avoir quelqu'un qui les écoute et qui va pas leur dire ben alors, tu sais ce qui te reste à faire, bouge-toi le cul un peu au lieu de te plaindre, voilà, quoi. Quelqu'un qui va plus les rassurer, mais non, t'es bien. Et ouais, donc, enfin, puis ouais, non, mais si, j'ai eu un soumis aussi. Et on a une cravache dans le bar.
Ah oui ?
Oui, oui.
Et qu'est-ce qui se passait alors ?
Ah ben, alors voilà, première bouteille, on discute. Alors, il dit plein de trucs. Alors, lui, voilà, son délire, c'est qu'il aime bien dire des trucs pour choquer les étudiantes. Alors. Donc voilà, il dit. Ah,
parce que vous êtes tous. Vous êtes toutes des étudiantes.
Non, 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 pas toutes, mais.
Non, mais c'est une blague, parce que.
On est jeunes, donc lui, il doit avoir, je sais pas, il doit avoir 50 ans, donc forcément, il y a. Le rapport que c'est un peu le papy. Puis il dit, ah, moi, j'adore me faire enculer. Ah, j'aimerais bien une petite étudiante, machin. Enfin, bon, voilà. Et lui, ouais, donc première bouteille, je l'écoute, je lui parle un peu. Deuxième bouteille, on sort la cravache. Après, oui, du coup, avec lui, c'était marrant, parce que là, c'est pas moi qui fais un striptease. Je lui ai fait faire un striptease en lui foutant le cul. Et il a payé pour ça.
C'est génial.
Ouais, c'est génial. Et voilà. Mais ouais, il y a un peu. Ouais, puis ce qui m'a étonné aussi, c'est qu'il n'y a pas que des mecs qui ont de l'argent. Il y a eu des, mm-hmm. eu des types, des rémistes, un chef de gare, un ancien squatteur, enfin, on a tout eu, quoi. Des profs. Bon, alors, les profs, ils ont quand même de l'argent, mais pas mal de mecs qui bossent sur des chantiers. Il y avait pas mal. Donc, visiblement, pas non plus super fortunés. Mm. Voilà, après, s'il y a des mecs, beaucoup du gars dans le commerce, quand même, dans les affaires.
Ouais, moi j'ai remarqué un truc aussi. Je pense que c'est spécifique parce que je suis très jeune et que ça se voit physiquement sur ma photo que je suis très jeune. Et j'ai noté mon âge dans mon annonce. Et du coup, j'ai des clients donc qui vont être entre 25 et 35, 40 ans, mais plutôt 25 et 35, qui à mon avis doivent plutôt se dire, vu qu'elle est jeune, si j'ai 60 ans, je vais pas aller voir une fille de 19 ans. Et par contre, j'en ai des qui viennent justement parce qu'ils sont vieux et justement parce que je suis jeune et qui sont plutôt dans un fantasme de je baise ma fille ou des trucs comme ça, quoi. Donc voilà, j'ai les deux.
Eh ben, on continue avec de la musique. J'espère cette fois-ci, on va arriver à trouver le morceau. Alors, on a prévu de passer un morceau d'un groupe qui s'appelle Les Grognasses et qui s'appelle J'attends le Prince Charmant.
Je suis pas doux, je suis hystérique.
Faire ce qui ne se fait pas. Demander de l'argent pour ce qui doit rester gratuit. La décision n'appartient pas à la femme adulte, le collectif impose ses lois. Les prostituées forment l'unique prolétariat dont la condition émeut autant la bourgeoisie. Au point que souvent des femmes qui n'ont jamais manqué de rien sont convaincues de cette évidence. Ça ne doit pas être légalisé. Les types de travaux que les femmes non nanties exercent, les salaires misérables pour lesquels elles vendent leur temps n'intéressent personne. Si leur lot de femmes n'est pauvre, on s'y habitue sans problème. Dormir dehors à 40 ans n'est interdit par aucune législation. La clochardisation est une dégradation tolérable. Le travail en est une autre. Alors que vendre du sexe, ça concerne tout le monde. Et les femmes respectables ont leur mot à dire. Depuis 10 ans, ça m'est souvent arrivé d'être dans un beau salon, en compagnie de dames qui ont toujours été entretenues via le contrat marital, souvent des femmes divorcées qui avaient obtenu des pensions dignes de ce nom, et qui, sans l'ombre d'un doute, m'expliquent, à moi, que la prostitution est en soi une chose mauvaise pour les femmes. Elles savent intuitivement que ce travail-là est plus dégradant qu'un autre, intrinsèquement. Non pas pratiqué dans des circonstances bien particulières, mais en soi. L'affirmation est catégorique, rarement assortie de nuances telles que « si les filles ne sont pas consentantes » ou « quand elles ne touchent pas un centime sur ce qu'elles font » ou « quand elles sont obligées d'aller travailler dehors aux périphéries des villes ». Qu'elles soient putes de luxe, occasionnelles, au trottoir, vieilles, jeunes, douées, dominatrices, tox ou mères de famille ne fait a priori aucune différence. Échanger un service sexuel contre de l'argent, même dans de bonnes conditions, même de son plein gré, est une atteinte à la dignité de la femme. Preuve en est, si elles avaient le choix, les prostituées ne le feraient pas. Tu parles d'une rhétorique. Comme si les pileuses de chez Yves Rocher étaient à l'aide de la cire ou perçaient des points noirs par pure vocation esthétique. La plupart des gens qui travaillent s'en passeraient s'ils le pouvaient, quelle blague! N'empêche que dans certains milieux, on répète à l'envi que le problème n'est pas de sortir la prostitution de la périphérie des villes, où les prostituées sont exposées à toutes les agressions, conditions dans lesquelles même vendre du pain relèverait du sport extrême, ni d'obtenir des cadres légaux tels qu'ils sont réclamés par les travailleuses sexuelles, mais d'interdire la prostitution. Difficile de ne pas penser que ce que les femmes respectables ne disent pas, quand elles se préoccupent du sort des putes, c'est qu'au fond, elles en craignent la concurrence. Déloyale, car trop adéquate et directe. Si la prostituée exerce son commerce dans des conditions décentes, les mêmes que l'esthéticienne ou la psychiatre, si son activité est débarrassée de toutes les pressions légales qu'elle connaît actuellement, la position de femme mariée devient brusquement moins attrayante. Car si le contrat prostitutionnel se banalise, le contrat marital apparaît plus clairement comme ce qu'il est. Un marché où la femme s'engage à effectuer un certain nombre de corvées assurant le confort de l'homme à des tarifs défiant toute concurrence, notamment les tâches sexuelles. C'est un texte de Virginie Despentes dans King Kong Théorie.
Et alors, vous êtes toujours sur Dégenré ce soir sur le travail sexuel. Et ben pour rebondir un peu justement sur ce texte de Virginie Despentes, vous en fait, enfin cette question de, parce que finalement ça touche à des questions de d'autonomie et de pouvoir en fait dans les relations avec les hommes. Et comment, je sais pas, vous vivez ça dans vos expériences avec les clients? Enfin, je sais pas, le rôle en fait que vous avez dans les relations avec les clients comparé au rôle que vous pouvez avoir enfin hors du cadre de ce boulot où en fait voilà, peut-être je formule très mal ma question.
Ben moi, je trouve que j'ai quand même une certaine liberté avec les clients que j'avais pas forcément avec des mecs avec qui me payaient pas, quoi, on va dire. Et je trouve vachement plus facile de refuser à un client qui a envie de baiser, de lui refuser gentiment, en continuant à l'aguicher, mais quand même fermement, que à... je sais pas, à mon petit copain ou à un ami qui m'a rendu service. Et du coup, je trouve que quand même, quand on est une femme, c'est clair qu'on est. C'est pas tout à fait ça, mais c'est presque comme si, de toute façon, il y avait un devoir sexuel envers l'homme en général, quoi. De toute façon. Et ouais. Du coup, je trouve que autant être payé pour ça.
Ouais, moi, je sais que j'ai vachement pensé à la prostitution justement quand je suis devenue féministe, parce que je me suis rendu compte que la plupart des relations d'amants ou amoureux-amoureuses que j'avais avec des hommes, j'avais l'impression de les servir, ou en tout cas qu'ils considéraient que je devais les servir. Et du coup, à un moment, j'avais un peu l'impression de faire du bénévolat. Je me suis dit, ouais, si je faisais payer, quoi. Et c'est vrai que si les conditions de travail sont bonnes, à un moment, je me suis dit, en fait, c'est une relation plus égalitaire, parce qu'au moins, tu sais ce qu'on te donne contre le service sexuel ou psychologique que t'apportes, quoi.
Et au moins, les choses,
Les choses, elles sont cadrées et c'est dit dès le départ et chacun sait ce qu'il vient faire ici. Alors que ça nous est tout arrivé, enfin, moi et je pense d'autres filles et plein de mes copines, on est toutes allées dans des bars se faire payer des coups ou moi, avant de faire ce boulot, vu que j'avais pas beaucoup d'argent, j'allais en teuf et je draguais tous les mecs et ceux qui avaient le plus de produits pour me faire payer le plus de choses en leur faisant espérer. Et en fait, non, à la fin, il n'y avait rien. Mais voilà, donc dans ces cas-là, vu qu'on fait espérer des choses, mais que c'est pas dans le contrat, c'est un peu plus dur de se défaire de la personne et surtout qu'elle comprenne qu'on lui doive rien, parce que dans l'ordre juste des choses, eh ben si, on lui doit quelque chose.
Ouais, c'est clair, mais moi, je sais pas, j'ai l'impression que dans... Enfin, dans les rapports hétéros, il y a vachement quand même souvent des trucs qui sont de l'ordre de gains matériels, quoi, mais où c'est pas cadré contre des échanges sexuels, affectifs, soutien. Parce que j'ai l'impression qu'en plus, même dans ce que vous avez dit, il y a vachement cette espèce de truc psychologique et je sais pas, c'était sur des tracts, par exemple, j'ai vu Travailleuse du sexe, enfin, par exemple, ce truc de dire, mais... on va nous dire ah mais vous êtes dans le stéréotype féminin tout ça, alors que si on prend le travail de psychiatre par exemple, c'est un stéréotype féminin quoi d'être là en tant que psy et c'est pas interdit par la loi, etc. quoi. Et moi j'ai l'impression par exemple ce truc d'avoir déjà fait ça aussi jeune, surtout de faire payer des coûts, et que je sais pas, j'ai l'impression d'avoir souvent aussi entendu des filles ou des copines dire des trucs qu'on rapporte quand même avec des gains matériels, quoi. Par exemple, ah ben moi, mon copain, il faut qu'il ait une voiture, quoi. Parce qu'au moins, il pourra m'emmener à des endroits où il faut qu'il me paye des trucs, il faut qu'il m'amène au resto. Enfin, j'ai l'impression. Et puis, je pense que pour des femmes qui se marient, enfin. Ouais, il y a quand même vachement quand même ce truc qui est ancré, sauf que c'est pas dit en fait, quoi. Mais quand même de l'ordre de les mecs de toute façon statistiquement, enfin voilà, ils ont plus de thunes, plus de biens matériels, etc. Donc ils vont donner ça en échange de. Bah puis je pense aussi des fois ça peut être aussi dans le truc d'escorte plus le côté de paraître avec une fille, quoi. Enfin genre le statut social aussi que ça donne, quoi.
De toute façon, il y a toutes sortes d'échanges prostitutionnels qui soient assumés ou pas, ou dits prostitutionnels ou pas, quoi.
Ben, de toute façon, en tant que fille, on a souvent voilà, une espèce de petite rémunération en échange du devoir sexuel, ou au moins de l'espoir sexuel qu'on va entretenir auprès de XY. Et du coup... Du coup, dès qu'on demande un vrai salaire, alors là, tout de suite, les gens, ils... comment ça? Mais quoi? Trois carottes, un resto, ça te suffit pas? Tu veux 170 euros? Et du coup, ouais, ça, je pense, en effet, ça fait vachement... Puis moi, enfin, tout le truc aussi de la libération sexuelle de la femme... Toutes les fois où je me suis emmerdée avec des gros lourds à les écouter parler alors qu'on était bourrés, que je me suis dit oh là là, mince, j'ai pas de sous, il me paye des verres, bon allez, je l'écoute, ou là, je l'ai allumé pour avoir ça, maintenant il veut autre chose, comment je vais faire pour m'en dépêtrer? Mais bon, en même temps, il paraît qu'il faut coucher avec des types, c'est la libération. Et ben finalement...
Et il prend du plaisir en plus.
Et en plus, il paraît qu'il faut y prendre du plaisir. Alors, mais du coup, je me suis dit... mais pour toutes ces fois-là, si seulement j'avais pu me faire payer. Parce qu'il ne faut pas se leurrer, quoi. Libération sexuelle, la plupart des fois où on se dit « Ouais, trop bien, allez, je suis libérée, je vais coucher avec celui-là, là, qui est là-bas, qui boit sa bouteille de whisky. » Mais c'est pitoyable, quoi. C'est vraiment... c'est tellement merdique. Au moins, maintenant, je me ferais payer, quoi. Je sais que je ne referais pas cette erreur d'être libérée sexuellement, mais bénévolement. C'est sûr.
Et moi, il y a une question que je voulais poser, c'est... C'est à votre avis, pourquoi est-ce que les travails du sexe dans leurs différentes conditions de travail qui existent, pourquoi on n'en parle pas? Pourquoi c'est caché? Pourquoi c'est un truc qui est hyper tabou?
Moi, à mon avis, l'image qu'on en avait toutes, que c'était extrêmement dangereux, qu'il n'y avait que des pervers sexuels qui allaient voir ce genre de filles et qui demandaient ce genre de service, elle est entretenue. Elle est entretenue par les hommes, par le patriarcat, tout ça. Pour justement, dans le texte, c'est bien décrit, pour pas que ça mette en péril, à mon avis, le fait d'être une femme mariée, quoi. Et aussi que si on montre à toutes les filles qu'on peut gagner de l'argent, beaucoup d'argent, être autonome, toute seule, et surtout que qu'on n'est pas obligé de vivre au crochet d'un homme, tout ça, ça fait peur et ça va contre la logique. Qu'on nous apprend, qu'on nous inculque depuis qu'on est jeune. Quoi.
Moi, je crois que c'est parce que la société, comment ça existe maintenant, et comme les hommes ont vachement de pouvoir sur les femmes, et si. Et je crois que. En fait, j'ai oublié. Je suis désolée, j'ai oublié ce que j'allais dire. Je vais me rappeler plus tard.
Ouais. Moi, j'ai vachement l'impression que ça remet en cause l'idée de gratuité, en fait. Que si on baise avec des mecs, c'est soit par amour, et du coup, l'amour, c'est gratuit, on compte pas ce qu'on donne et ce qu'on prend, et en fait, en général, juste les femmes donnent trois fois plus que ce qu'elles prennent. Que ce soit en écoute, enfin, en soins affectifs, en temps de travail domestique ou en sexualité, parce que, bon, par exemple, il y a même pas 30% des femmes qui jouissent par pénétration vaginale, et du coup, alors que c'est quand même l'immense majorité de la sexualité hétéro. Et du coup...
D'où tu sors ce chiffre?
Du clitoris, ce chat inconnu. Documentaire sur Arte. Mais bon, il y en a qui disent moins, il y en a qui disent plus. Mais...
Oui, je pense que c'est assez approximatif.
C'est comme les syndicalistes et les chiffres des syndicalistes et de la police.
Ouais, mais que ça remet en cause l'idée que soit c'est gratuit parce que de toute façon on le fait par amour, soit on le fait soit on baise avec des hommes pour notre propre plaisir, mais qu'on en tire un profit net et que ça soit réglé sous contrat et tout ça, je pense que c'est un peu au détriment des hommes actuellement, quoi.
Ouais, moi, en fait, je crois que c'est un des aspects que je trouve vachement intéressant aussi en tant que féministe, en fait, dans le travail du sexe. Et je trouve que ça casse à un moment vraiment cette vision hyper sacralisée de la sexualité, du sexe, du corps. En fait, qu'à un moment, le rapport au corps, il est construit, et que en fait tu peux avoir des rapports sexuels avec des hommes sans que ça soit en fait dans un but précis de gagner de l'argent et tout ça, et sans que ça j'en sais rien, ça soit traumatisant ou que ça te t'anéantit, je sais pas, en fait, quelque chose comme ça, quoi. Alors que
tu dois en avoir honte.
Ouais. Et je trouve qu'il y a vachement plus fort pour les femmes que pour les hommes une construction du rapport au corps et à la sexualité comme ça. C'est un truc sacré, il faut pas... comme les petites filles, elles apprennent très vite à un certain âge que certaines parties du corps, il faut surtout pas les montrer à n'importe qui. Et en fait, c'est ça, parce que sinon, c'est toi qui es couvert de honte. Et alors qu'en fait, on pourrait avoir un rapport au corps vraiment différent. Et je trouve que réfléchir ou vous entendre parler, en fait, du travail du sexe, ça casse vraiment, en fait, cette sacralisation qui finalement est un contrôle du corps, quoi. Enfin... Mm-hmm.
Moi, je trouve que dans cette société, on est élevé d'être des femmes gentilles et de vouloir baiser avec nos mecs et tout ça. Et je trouve que la prostitution ou le travail du sexe en général, c'est un truc à la base. Qu'est-ce que c'est notre société? Et je trouve que tout le monde voudrait croire que notre société n'est pas comme ça et que tout le monde est égal et qu'on aime bien baiser autant que les mecs et on peut jouir tout le temps ou sinon c'est pas grave parce que en plaire aux mecs quand même ou quelque chose comme ça. Et donc du coup je trouve que ça c'est pourquoi le travail de sexe c'est mal vu dans notre société, parce que c'est le truc qu'on veut pas voir, que c'est vraiment la vérité, ça c'est vraiment ça à la base, mais on veut pas voir ça. Et du coup, et de mettre de l'argent dedans, c'est vraiment de montrer ça en clair, que oui, c'est ça notre société en fait. C'est vraiment à propos de l'échange, et c'est pas vraiment à propos le vrai amour, d'être égal.
Et puis je pense aussi que contrairement aux idées reçues, la plupart des mecs sont vachement plus cool avec leurs putes qu'avec leurs femmes. Et ça, je pense aussi que c'est aussi une des raisons pourquoi les femmes, du coup, enfin, pourquoi les femmes en veulent vraiment aux putes, c'est que, enfin, voilà, si elles se disent que, ouais, que elles, leur mari, il est jamais il est attentif, jamais il les écoute, jamais il fait un geste gentil pour elles. Tout ce qu'il fait pour elles, c'est de les baiser une fois tous les deux jours, et puis de temps en temps, peut-être de leur filer 50 euros pour qu'elle aille acheter les couches aux gamins. Alors qu'avec avec son hôtesse ou son escorte, ou voilà, il va plus soit lui parler pour qu'elle l'écoute, soit essayer de la draguer gentiment, en tout cas de la payer, de passer un moment sympathique. Ben ouais, moi souvent je me suis dit que les clients avec moi ils étaient très cool, et comme ils parlaient de leur femme, je me suis dit mais dis donc, mais elles, qu'est-ce qu'elles doivent pas faire pour avoir le peu que j'ai moi d'attention de ce type là quoi.
Mais c'est aussi que les hommes ils sont dans des rôles très construits, et qu'on leur demande d'être performants, et qu'on attend d'eux qu'ils soient performants, protecteurs, tout ça, et que les femmes aussi elles attendent ça d'eux quoi. Et d'ailleurs, enfin, moi je le vois, parce que dans la tête de la plupart de mes clients, c'est pour eux avoir un rapport sexuel, c'est-à-dire pénétration, c'est-à-dire l'orbite dans une chatte, quoi. Et voilà, et quand des fois on peut leur montrer que ça peut être autre chose, et qu'ils sont pas obligés d'être dans la performance, et que c'est pas forcément ça qui fait plaisir aux femmes, d'être pénétrées pendant des heures.
Tu m'étonnes. Oh, la plaie, quoi.
Et ben...
Pire encore que l'éjaculateur précoce, au chaud lapin, quoi. Oh, merde.
Ouais, parce qu'il y en a... Enfin, moi, c'est une heure, par exemple. Une heure de 150 euros, mais il y en a plein. Soit ils se branlent, ou soit, hop, en 10 minutes, ils ont éjaculé, et en 10 minutes, ils sont repartis, ils ont payé, quoi.
Mmh. Intéressant. Et peut-être on va faire une petite pause musicale. Peut-être avant de reprendre aussi sur ce truc, du coup, que c'est pas visible... Peut-être pour avoir justement vous, est-ce que vous en parlez, c'est quoi les réactions des gens justement quand vous leur en parlez quoi, de ce boulot.
Situation I can't stop thinking about, but my heart keeps hoping that the future stays open for the outcome that I dreamed of, that someday we are in love. Until then I'm desperate for distraction from this critical attraction with this person that is you, who has no idea what I go through.
Are you fucking with me, or are you fucking with me? Are you fucking with me, or are you fucking with me?
I stepped into a pile of glue while I was looking at you, and then I tried to take off my shoe, but my hands got stuck too.
When you go away, I notice it. When you go away, I notice it.
I don't have what I want. And die.
on vient d'écouter Are You Fucking With Me de Kevin Black Dome. Et vous êtes toujours sur Dégenré, une émission sur le travail du sexe. Et du coup, on avait un peu envie de reprendre sur ce truc, justement, que c'est un travail dont on parle peu, ou alors avec des stéréotypes, quoi. Enfin, sur ce qu'on en voit dans les médias, par exemple. Et voilà, je sais pas, vous, par exemple, si c'est un truc dont vous parlez facilement aux gens, à, je sais pas, à vos amis, votre famille, enfin, j'en sais rien. Et du coup, quelles sont les réactions ?
Moi, je vais répondre, mais après, c'est une question que je voudrais vous poser, à vous. Est-ce que vous trouvez qu'on en parle plus dans le milieu ? Et est-ce que vous trouvez qu'on a un avis différent sur la question dans le milieu féministe, tout ça, que... Voilà, donc ça, c'est la question que je vous pose. Et je sais pas, peut-être je répondrai après.
Moi, je trouve pas qu'on parle plus dans le milieu de travail de sexe, et je trouve que il y a les mêmes préjugés qui existent dans le milieu, qui existent partout dans la société. Je sais pas, c'est pas super, je trouve ça un peu bête, en fait.
Moi, je trouve qu'on en parle beaucoup en théorie.
Oui.
On en parle beaucoup en théorie, et après, quand il s'agit de se retrouver face à une personne qui le dit, c'est surtout les réactions des mecs qui sont pas forcément différentes de celles de tous les mecs lambda qu'on fréquente.
C'est sûr, ils se disent qu'il va falloir payer maintenant.
Ouais. Ben, moi, j'ai l'impression qu'on n'en parle pas tellement. Hein. Enfin, moi, quand j'ai eu envie de faire cette émission, je me suis dit, chic, ça va être une occasion pour savoir ce que c'est aussi. Parce que je ne savais pas ce que c'était et que ouais, j'en parlais pas. Et du coup, ouais, j'ai pas l'impression qu'il y a un avis tellement différent, en fait, sur ça que dans la société globale. Enfin, j'ai pas remarqué ça.
Ouais, ça dépend. Après, moi, je trouve ça compliqué de parler en termes de milieu. Ouais. Pour moi, ça veut. Enfin, mais surtout la radio, ça veut pas dire grand chose, que les gens. Enfin. Du coup, là, on parle plutôt. Enfin, c'est bien de préciser parce que les gens qui nous écoutent. Du coup, vous parlez plutôt d'un milieu militant, par exemple, ouais. Alternatif, anarchiste, voilà, c'est ça que vous entendez.
Féministe, pro-féministe, tout ça, quoi.
Bah, parce que, par exemple, moi, j'ai l'impression. Il se trouve quand même d'en parler quand même pas mal, enfin régulièrement avec des amis, mais en fait je trouve que ça veut rien dire, ce que je peux pas dire dans un milieu, en fait. J'en parle avec des copines parce que, enfin soit des copines qui font ce boulot, soit ça m'est arrivé d'y réfléchir pour moi comme travail, même si par exemple pour moi je le réfléchis pas dans un truc hétéro, quoi, enfin avec des mecs. Mais enfin du coup d'y réfléchir et d'avoir quand même pas mal de discussions là-dessus, mais je trouve qu'on peut pas généraliser à un milieu, quoi. Mais ouais, j'ai l'impression qu'il y a quand même des... Enfin, j'en sais rien. Je trouve qu'il y a quand même aussi toute une partie, par exemple, de mouvements féministes ou transpédéguines qui se positionnent clairement sur le travail du sexe, où il y a une visibilité, que ce soit par des films, je sais pas, d'autres choses du travail, ouais, du sexe. J'ai pas non plus, ouais, envie de mettre ça de côté, parce que souvent, par exemple, dans le cliché, par exemple, qui peut sortir dans les médias, c'est que toutes les féministes sont abolitionnistes. Du coup, par abolitionniste, pour aller vite, sont contre le travail du sexe, mais dans un truc, ah, les pauvres victimes, faut les sortir. Et c'est vrai qu'il y a quand même toute une partie, ouais, d'un milieu, on va dire, féministe transpédéguine, qui a un point de vue différent. Et où peut y avoir quand même des vrais trucs de solidarité qui se jouent, mais après, je sais pas ce que ça représente, quoi. Mais c'est pour pas dire, genre, la majorité, enfin, tu vois, je sais pas en termes de proportion, quoi.
Après, moi, je parlais plutôt des mecs, des mecs du milieu militant, anarchiste et ou pro-féministe.
Ouais, et toi, ils ont quelle réaction si tu leur dis que tu escortes?
Alors déjà, moi j'ai choisi, je l'assume en général, je le dis, alors je le dis pas pareil, je le dis pas pareil à tout le monde. Il y a des gens à qui je dis que je suis hôtesse de charme et je précise pas tellement, ou alors je dis que je fais juste de l'accompagnement, parce que j'ai remarqué qu'il y avait vraiment vraiment une grosse différence pour les gens quand j'expliquais que je faisais juste de l'accompagnement, des photos, du striptease, tout ça, et ou alors quand je disais que oui, il y avait pénétration. Il y a vraiment un gros changement quand il y a pénétration, et ça démarque bien que la pénétration est le centre de la relation sacrée entre un homme et une femme, quoi. Et voilà, et du coup, j'ai remarqué aussi autour de moi que les filles qui me sont proches ont toujours bien réagi en posant des questions, même celles qui me sont moins proches, voilà, en posant des questions, en me demandant si moi ça allait, comment je le vivais, tout ça. Et bizarrement, les garçons, alors que tous mes clients sont des hommes, ont plutôt une réaction de rejet, de demander, parce que là, en l'occurrence, j'étais en couple avec, avec un garçon, et de tout de suite se tourner vers lui en lui disant « Et alors, c'est pas trop dur ?» voilà, des choses comme ça. Et,
le pauvre.
Et ouais, voilà. Bah, et du coup, depuis que je fais ça, moi, j'ai choisi de le dire pour pas justement que les gens se méprennent et les gens et les hommes ou les gens qui ont envie d'entamer une relation avec moi, qu'ils sachent bien à quoi s'en tenir et qu'ils sachent bien que j'arrêterai pas de faire mon boulot parce que je vais les rencontrer ou voilà, que c'est ma vie indépendante de ça.
Et toi, Leïla?
Ouais. C'est pas... T'as eu des réactions positives ou négatives par rapport au fait que tu fasses du travail du sexe?
Oui, mais oui, je crois que dans le milieu, c'est plutôt bien vu d'être dominatrice parce que quand même, c'est féministe de dominer des hommes. Et souvent, c'est mal vu d'être escorte parce que c'est... Mm-hmm. C'est mal vu de baiser les hommes pour l'argent. Ou... Et ouais, je trouve ça vraiment nul parce que je trouve que c'est vraiment une réappropriation de ce que toute la société pense. Et je trouve que si on veut réfléchir plus et on veut être plus intelligent que ça et on veut juste pas réapproprier tous les stéréotypes qui existent déjà, il faut demander aux gens et il faut pas... juste regarder la télé et dire ah oui tiens, comme pendant l'AMP par exemple, qui était une conférence à Lyon plutôt anticapitaliste, anarchiste, il y avait beaucoup de féministes qui ont dit par exemple que ah oui, mais en Allemagne quand même c'était vraiment glauque qu'ils ont fait un bordel pour le foot machin. Et sur la télé, ils ont dit qu'ils vont amener des tonnes de filles de l'Europe de l'Est pour travailler dans le bordel et tout ça. Et c'était pas du tout vrai. Et juste que tout le monde croyait ça quand ils ont vu ça sur la télé. Mais on va pas croire tout de suite. Par exemple, si on voit une histoire sur la télé où il y a une personne qui est pas blanche, par exemple, qui a fait une bêtise, on va pas croire ça tout de suite, mais on va croire tout de suite à une histoire de prostitution que la victime. Femme a été forcée parce que...
Elle est tout de suite victime.
Ouais, elle est tout de suite...
Tout de suite, ça c'est plus probable.
Ouais, c'est...
Enfin, peut-être les gens y croient les deux, hein. Je sais pas si on peut comparer, qu'est-ce que... Mais... Bon, bref.
Non, mais là, en l'occurrence, dans cette situation...
Ouais, c'est souvent sur la prostitution, il n'y a pas du tout de réflexion sur les conditions de travail, en fait. Enfin, pour moi, ce qui est c'est important là-dedans, c'est justement de quel degré d'autonomie ont les femmes qui font des travaux du sexe et comment elles négocient et comment elles peuvent ou non fixer leurs limites. Et
si elles sont satisfaites, si ça leur convient.
Ouais, et je pense qu'on peut faire vraiment le parallèle entre les différents travaux du sexe, que ce soit des filles qui couchent avec des hommes pour avoir soit un confort matériel, soit des femmes qui se marient avec des hommes, soit des femmes qui se prostituent plus globalement, enfin plus clairement ou selon une législation. Mais en fait, enfin moi je pense par exemple à ma grand-mère qui s'est prostituée toute sa vie avec son mari, enfin. Et qu'il a toujours fait bénévolement, et ben, juste parce que si je disais que je me prostituais, et ben, elle serait plutôt contente, quoi, parce qu'au moins j'en tirerais de l'argent, alors qu'elle n'a jamais rien tiré, en fait. Et ça, c'est un truc qu'on met jamais en perspective. On en parle toujours en disant bouh, la prostitution, c'est affreux, et jamais dans quelles conditions ça se fait, quoi.
La plupart des escortes que moi je connais, elles habitent toutes seules. Des fois, elles ont des copains, mais elles ne sont pas dépendantes sur leurs copains. Elles ont une bonne vie, quoi. C'est pas qu'elles sont obligées de subir subir de l'harcèlement sexuel. Et moi, je connaissais des amis à Montréal, quand je travaillais à Montréal, qui m'ont dit qu'elles se faisaient vachement plus harceler sexuellement dans d'autres boulots, comme en travaillant dans la restauration et tout ça, que de travailler dans le travail du sexe, parce que dans le travail du sexe, c'est clair ce qu'on va faire. Et dans tous les autres trucs, il y a toujours un sous-entendu de sexisme qui existe. Et justement, dans le travail du sexe, moi j'avais vachement plus de respect dans le travail du sexe avec mes clients que dans le milieu anarchiste, pro-féministe, machin. Et... Oui.
Ouais. Ouais, et aussi, par exemple, c'est aussi pour ça qu'on avait envie de faire cette émission ce soir. C'est parce qu'il y a des formes de travail du sexe, même si c'est pas évident aujourd'hui, qui sont autonomes et qui permettent des bonnes conditions de travail. Mais il ne faut pas oublier aussi que justement le fait que ce ne soit pas légalisé ou même que ce soit pénalisé dans la plupart des cas, ça fait que en fait, les conditions de travail des travailleuses du sexe, elles sont aussi super déplorables. Et donc, enfin, on ne fait pas une émission représentative, mais on fait une émission pour dire voilà, y a des formes de travail du sexe qui peuvent être, permettre l'autonomie de personnes. Quoi.
Et ça dépend comment on se leur approprie, ça dépend si on est forcé ou pas. Enfin, nous, on est là avec nos témoignages et nos histoires. Mais voilà, on n'est pas représentatif de tout le monde. Et il y a plein d'autres histoires qui ne se passent pas forcément de la même façon et qui ne sont pas forcément heureuses. Donc voilà, on est loin de dire la prostitution, tout est beau, tout est rose. Quoi. Tout n'est pas noir non plus.
Oui, mais la plupart des problèmes qu'elles ont par rapport à ça, autant que travailler comme prostituée, sont vraiment les conditions de travail et,
ouais, la loi.
Et le rapport de pouvoir et la loi et pas le travail. Ça, c'est pas le travail le problème, c'est tous les autres trucs qui vont autour et l'abolitionnisme qui va contre la prostitution, ça aide pour que les prostituées vivent pas des trucs bien.
Ouais, c'est clair, parce que ça prend pas en compte, plutôt de critiquer, par exemple, toutes les lois sur l'entrée des migrantes en France, aussi qu'est-ce qui est proposé aux femmes migrantes dans ce pays, comment les lois, elles font la chasse aux sans-papiers et aux prostituées. Enfin, voilà quoi, le discours abolitionniste, c'est juste on condamne dans un bloc, c'est un peu ce qu'elle expliquait aussi la Virginie Despentes dans son livre, quoi. Il n'y a pas de restriction par exemple, oui, effectivement, si tu es casé à l'autre bout de la ville, dans la périphérie, ouais, ça devient compliqué, mais comme n'importe quel autre boulot, en fait. Parce qu'on te met dans des endroits où tu peux te faire, puis on fait des lois qui font que les flics, ils peuvent te harceler, les clients, ils se permettent tout. Mais c'est pas ça qui est critiqué, là, on dit... Ouais, bref, je trouve que c'est le problème du discours abolitionniste, là, comme ça, dans un bloc...
Voilà. Ben, c'est un peu la fin de notre émission, il est bientôt 8h. Alors on a quelques infos à vous donner. Déjà sur Grenoble, du 12 au 20 mai, il va y avoir un Lady Fest, qui est un festival qui met sur le devant de la scène les cultures, les luttes et les formes artistiques des femmes, des lesbiennes et des trans. Ça va se passer à Grenoble et ça va être affiché un peu partout. Donc vous aurez le programme, où vous pouvez aussi avoir des renseignements sur infoladyfest@nolog.org, c'est ça ?
Ouais.
Ouais, c'est ça. Je me trompe pas. Et mardi prochain, il y a toujours le repas féministe au local autogéré.
7 rue Pierre Dupont.
Ouais, un truc comme ça. Ouais. Le docteur Dupont.
Non, Pierre Dupont, Pierre ça Dupont. Je suis sûre, c'était le numéro que j'avais.
C'est le 7. Et donc, il faut venir avec à manger plutôt végétarien.
L'auberge espagnole.
Voilà, c'est une auberge espagnole pour qu'on se rencontre et qu'on discute de ce qu'on fait, de popio. Comme ça, quoi.
Ouais, il y a des distros, des fanzines, des trucs à feuilleter. Enfin, c'est l'occasion de se rencontrer, quoi.
Et moi, le dernier truc que je voulais dire, c'est qu'en ce moment, il y a 3 squats qui sont expulsables sur Grenoble et ça nous fout bien les boules. Et il y a aussi des squats qui sont faits expulser en Hollande, à Lyon, et il y a des squats qui sont mis en danger aussi à Dijon. Et voilà, tout ça, c'est pour dire qu'on est encore attaqué sur nos modes de vie autonomes et voilà, c'est encore des façons de faire en sorte de vouloir nous recaser dans le salariat, parce que pour avoir un appartement et un loyer, pour avoir un appartement ou un lieu pour habiter, il faut avoir un salaire. Et c'est horrible. Alors, soyons solidaires contre les expulsions.
Et ouais, il ne faut pas oublier que c'est aussi le retour des expulsions des locataires, vu que la trêve d'hiver est finie. Enfin là, pour avoir été au procès de mon squat mardi, Actis, donc le soi-disant bailleur social grenoblois, mettait quand même en procès 6 locataires, rien que ce jour-là, pour les expulser de leur logement. Donc il faut aussi penser à tous les locataires expulsables.
Voilà, bientôt.
Et on vous laisse avec donc le morceau qu'avait présenté Inga, comme la Virgine, on s'était trompé tout à l'heure. Bonsoir.
Bonne soirée.
Decidimos.